sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Pour cette deuxième partie de séance solennelle de l'Académie des sciences 2009, de remise de grands prix et des prix thématiques, Jean Salençon, président de l'Académie des sciences, évoque dans son discours d'entrée le rôle de l'Académie en tant que conseil pour la société. Jean-Charles Schwartz, membre de l'Académie des sciences, revient pour sa part dans son discours de clôture sur les enjeux médicaux et industriels des médicaments pour les pathologies du cerveau. Vous allez pouvoir écouter ces deux discours dans quelques instants. Auparavant, sachez que chaque année, la séance solennelle de l'Académie des sciences est l'occasion de décerner plus de 100 prix scientifiques. Nous vous invitons à consulter la liste des lauréats 2009 sur le site de l'Académie des sciences. Et puis, nous vous invitons également à consulter la biographie de Robert Weinberg, lauréat 2009 de la Grande Médaille. Tout de suite, le président de l'Académie des sciences, Jean Salençon.
Messieurs les sénateurs, messieurs les députés, madame et messieurs les membres des missions diplomatiques, madame et messieurs les présidents, monsieur le doyen, monsieur le directeur général, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les donateurs, monsieur le chancelier, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames et messieurs, le règlement de l'Académie royale des sciences du 26 janvier 1699, fixait, je cite, « au premier jour d'après la Saint-Martin, la seconde séance publique annuelle de cette Académie. 310 ans plus tard, nous respectons approximativement cette règle en tenant en ce 24 novembre notre séance solennelle, puisque, je le rappelle, la Saint-Martin est fêtée le 11 novembre. » Selon l'usage, je vais maintenant évoquer la mémoire des confrères qui nous ont quittés depuis notre séance solennelle du 16 juin dernier, prononcer leurs noms sous cette coupole et évoquer même de façon succincte leurs travaux sera une façon de rendre hommage à leur vivante contribution à la science pour le progrès de l'humanité. Maurice Fontaine, né en 1904, était depuis 1957 membre de l'Académie dans la section biologie animale et végétale, qui est maintenant la section de biologie intégrative. Il est décédé le 14 juillet 2009, dans sa 105e année. Il était le doyen de l'Académie, dont il avait été président en 1975 et 1976. Il était directeur honoraire du Muséum national d'histoire naturelle et commandeur de la Légion d'honneur. Sa prestigieuse œuvre scientifique a presque tout entière été consacrée à la physiologie comparée et à l'océanographie biologique. Au nombre de ses travaux, on retient son souci de comprendre les mécanismes qui sont restés longtemps si mystérieux des migrations d'espèces marines ou d'espèces à la fois d'eau douce et d'eau de mer. Ainsi a-t-il travaillé sur la lamproie, dont il a analysé le déclenchement du comportement migratoire. Puis il s'est intéressé à la migration des anguilles et à leur rythme sexuel. Car, physiologiste, il ne s'est pas contenté de décrire, mais a voulu connaître les mécanismes endocriniens qui gouvernaient précisément ces migrations. Dans le domaine écologique, on peut dire que Maurice Fontaine a été un précurseur. Il fut en effet soucieux, bien avant tant d'autres, de la pollution des océans et des moyens que la société scientifique pouvait apporter à ce problème écologique qui lui tenait à cœur. Daniel Schwartz, né le 30 janvier 1917, était correspondant de l'Académie dans la section biologie humaine et sciences médicales. Il est décédé le 6 septembre 2009 à Paris. Dès sa sortie de l'école polytechnique, Daniel Schwartz s'oriente vers les applications de la statistique en biologie. Puis, en 1950, centrant son activité sur la médecine, il crée à Villejuif l'unité de recherche statistique de l'INSERM, à partir de laquelle l'épidémiologie française, inexistante jusque-là, se développera. l'œuvre qu'il a ainsi accomplie en médecine est immense, à la fois par ses découvertes personnelles et par le développement de la recherche clinique qu'il a impulsée dans de nombreuses disciplines médicales. Il a aussi créé un centre d'enseignement à la Faculté des sciences de Paris, où il a formé à la statistique médicale et à la méthodologie de la recherche des générations entières de cliniciens et de biologistes qui ont exercé en France et à l'étranger. Les recherches d'Daniel Schwartz ont notamment porté sur l'utilisation de la méthode épidémiologique dans la recherche causale en médecine et sur la méthodologie des essais thérapeutiques. Il est indiscutablement un des créateurs de la médecine fondée sur la preuve, dont on connaît l'importance actuelle. Professeur honoraire à l'Université Paris-Sud, Daniel Schwartz était commandeur dans l'Ordre de la Légion d'honneur. Depuis l'année passée, nous avons aussi déploré le décès de plusieurs associés étrangers, Irving Gonzalez, Kiyoshi Ito, Rudolf Trumpi, Anders Lundberg, Jacques Dainty, Ephraim Kachalski-Katzir, qui fut président de l'État d'Israël, et Israël Gelfand. Mesdames et messieurs, je vous propose de nous recueillir quelques instants à la mémoire de nos confrères. Dans la suite de cette séance, nous allons procéder à la remise de prix et distinctions attribuées par l'Académie des sciences en cette année 2009, dont la Grande Médaille. C'est là une des missions de l'Académie dont j'ai fait ici même un bref historique le 13 octobre dernier. Je voudrais aujourd'hui évoquer rapidement une autre mission de l'Académie qui était présente dès l'origine, lorsque Colbert prit l'initiative de sa création. La mission de conseil, conseil de la société pour la science. Pour la brièveté du propos, je me bornerai à quelques considérations sur la place de la réflexion et de l'expertise scientifique dans le dialogue entre science et société. Je cite. Le gouvernement ne souhaitait pas que le débat soit confisqué par les experts. Fin de citation. C'est sans esprit de polémique que je cite cette réponse d'un député à une question d'un journaliste concernant la loi de bioéthique. Réponse entendue à la fin du mois de juin. Réponse dans laquelle je retiens particulièrement deux mots, confisqué et expert. Ils me paraissent traduire la prudence, sinon la méfiance d'une partie de la société vis-à-vis de la science et de ses applications. Une science souvent considérée comme l'affaire des scientifiques à travers leur jargon hermétique, leur code, leur non-dit, voire leur compromission supposée. Il est facile de rejeter la faute sur les médias accusés d'incompréhension et de recherche exclusive du sensationnel. Ce reproche n'est d'ailleurs pas propre aux scientifiques et il ne fait que traduire ce que j'appellerais la loi du genre. Il me paraît plus constructif d'accepter l'impérieuse nécessité de l'intermédiation et d'y œuvrer en recherchant les causes de malentendus et d'incompréhensions. La recherche et la découverte scientifique nécessitent une traduction qui n'est pas seulement affaire de jargon, tous les métiers ont leur, mais de compréhension. Comprendre la science. Un premier exemple de la difficulté à comprendre la science apparaît avec la fréquente impossibilité pour le scientifique de répondre à cette question, en apparence si simple, à quoi ça sert ? Alimentant ainsi le désormais célèbre aphorisme sur les chercheurs et les trouveurs. Pourtant, l'histoire même récente ne manque pas d'exemples de découvertes dont ni l'auteur ni ses pairs ne devinèrent les applications à venir. J'en citerai une qui sera bientôt d'actualité médiatique, puisque l'on célébrera en 2010 le 50e anniversaire de l'invention du laser par Charles Stones. C'est l'inventeur lui-même qui décrit en 1999, dans son livre How the Laser Happened, que « Oh, a nice solution looking for a problem » fut l'accueil réservé par la communauté des physiciens de l'Université de Columbia après le premier essai réussi du Maser, ancêtre du laser, en 1950. L'auteur ajoute même que de 1951 à 1954, il lui fut fortement conseillé de changer de sujet et qu'il s'estimait alors très heureux d'avoir été recruté à Columbia sur un poste avec tenure, c'est-à-dire d'être titulaire. À noter au passage que le principal bailleur de fonds qui permit à Charles Stones de poursuivre ses recherches fut militaire, sans aucune idée d'application a priori et avec le seul souci de ne pas se laisser dépasser par inadvertance. Sans parler de sérendipité, pour employer un mot à la mode, il est de fait que les découvertes les plus fructueuses ont été souvent celles dont les applications n'avaient pas même été entrevues. Illustration de cette phrase de Vannevar Bush, conseiller scientifique du président Roosevelt, que le président Obama a tenu à citer en avril dernier devant l'Académie des sciences américaines, je traduis, « La recherche scientifique de base est le capital scientifique ». C'est en fait la nature même de la démarche scientifique, fondée sur le doute, sur la quête perpétuelle de preuves de nature à conforter ou invalider théories et modèles, qui pose problème et interpelle quant à la façon dont la science est enseignée. Un progrès linéaire, une science lisse et définitive. Sur cette base, la société attend que le scientifique apporte à toute question une réponse tranchée, alors que celui-ci se référera à l'état actuel des connaissances. Le doute scientifique, détourné de sa véritable signification, aboutit au doute sur la science, avec des phrases telles que « Sur le même sujet, la science dira demain le contraire de ce qu'elle dit aujourd'hui » et la tentation de se replier sur les peurs irrationnelles et de s'en remettre aux rumeurs qui abondent désormais sur la toile. Pour tenter de surmonter cette difficulté de compréhension, certaines présentations de résultats scientifiques sont parfois accompagnées d'une pondération probabiliste. L'interprétation de cette sorte d'indice de confiance sur les validations à venir peut être faite à contresens, passant du probabiliste au déterministe. Je m'explique. Ainsi, il y a 90% de chances que la cause A soit responsable de l'effet B, se trouve transformée en « la cause A est responsable de 90% de l'effet B ». À l'évidence, la deuxième affirmation déterministe est totalement différente de la première, est beaucoup plus agréable pour la médiatisation et pour la prise de décision. Incertitude et prise de décision. On touche là au cœur du problème du dialogue entre science et société pour la prise de décision. Comment concilier responsabilité et incertitude ? L'inscription du principe de précaution dans la Constitution française en février 2005, dans le cadre de l'article 5 de la Charte de l'environnement, en est une illustration. Sa rédaction est limitée à l'environnement et concerne la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain en l'état des connaissances scientifiques, qui pourrait l'affecter, l'environnement, de manière grave et irréversible. Elle appelle à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage et aussi à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques. Des débats ont eu lieu récemment, notamment organisés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur un bilan de l'application de ce principe. Outre les dangers d'une appréciation extensive par le pouvoir judiciaire, tous soulignent qu'il s'agit en fait d'un principe d'action, que j'ai personnellement tendance à interpréter comme un appel, certes à la prise de mesures conservatoires, mais aussi et surtout au développement de recherches scientifiques rigoureuses et indépendantes permettant de passer de l'incertitude au risque. Je fais ici une distinction de type keynésien, où le risque représente l'incertitude quantifiée à la fois par un dommage potentiel bien reconnu et une probabilité d'occurrence bien modélisée. Pour concrétiser ce propos, une compagnie d'assurance assure contre un risque, non contre l'incertitude. La société est quotidiennement confrontée au risque, qu'elle traite par la prévention, en considération des conséquences sociales et économiques, et par la recherche dans le but de réduire les probabilités d'occurrence et l'importance des dommages. Cette distinction, en apparence si simple, a néanmoins ses limites. J'en mentionnerai deux. Les risques dont les dommages potentiels ont une gravité exceptionnelle et dont la probabilité d'occurrence est très faible, car pour ceux-ci, l'incidence du modèle probabiliste sur la prise de décision devient alors considérable. Et aussi, l'application extensive du principe de précaution pour des considérations éthiques, qui sera difficilement éclairée par la recherche scientifique. Quelle contribution de l'Académie des sciences dans ce débat ? L'éducation à la science. Je retiendrai en tout premier lieu l'importance de l'éducation à la science, à l'occasion et au-delà de l'enseignement des sciences. Dans un article récent, Bruce Alberts, ancien président de l'Académie des sciences américaines, compte l'exemple de ce parent, scientifique, enseignant volontaire dans une classe, qui demandait à un groupe d'élèves d'observer 3 échantillons de sol au moyen d'une loupe et de consigner leurs observations. Aucun ne voulut écrire quoi que ce fût au motif qu'il ne connaissait pas la bonne réponse. Qui de nous, enseignants, n'a pas rencontré ce désarroi devant une question ouverte. Désarroi qui illustre cette sorte de formatage des esprits que j'évoquais plus haut. C'est de cette constatation que procède l'initiative « La main à la pâte » de nos confrères Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré. Il n'est pas question ici de contester la nécessité des raccourcis pédagogiques. La méthode de la main à la pâte ne saurait être appliquée à toute discipline, en tout temps et à tout niveau. Si de même l'enseignement de la science en suivant fidèlement les errements historiques serait non seulement inutilement chronophage, mais surtout contre-productif, il n'en reste pas moins que, en temps opportun, l'exposé de la genèse de certains concepts fondamentaux fait non seulement partie de la culture scientifique, mais de la culture tout court. Et est de nature à faire comprendre la modestie de l'homme de science et, s'il nous est permis de rêver un instant, de fortifier chez l'adulte en devenir la curiosité pour la science qui se fait et ceux qui la font. L'éducation à la science doit faire reconnaître l'intégrité de la science, instaurer ou restaurer la confiance dans la science comme bénéficiant au progrès de l'humanité. Dans le même temps, elle doit pour cela souligner l'importance et donc la nécessité de la réflexion éthique. Le dialogue avec la société. Dans le dialogue entre science et société, l'Académie s'inscrit par ses relations avec les élus de la nation et avec le gouvernement. C'est ainsi que, suivant en cela l'exemple de la Royal Society, la délégation à l'information scientifique et à la communication de notre Académie a mis en place des jumelages entre parlementaires, académiciens et jeunes chercheurs. Jeunes, tout est relatif. Afin de jeter des passerelles entre les mondes politiques et scientifiques. Ils permettent notamment aux sénateurs et aux députés d'appréhender le monde de la science loin des descriptions caricaturales. Et ils apportent aux chercheurs une meilleure perception du travail parlementaire, leur rappelant le rôle et l'importance du pouvoir législatif. Ce matin même se tenait dans la grande salle des séances la réunion de bilan de la campagne de jumelage 2009. Le dialogue avec le gouvernement s'établit essentiellement au moyen de rapports et d'avis habituellement rendus publics. Leur légitimité repose sur la qualité des membres des groupes de travail et sur les procédures d'élaboration qui visent à garantir l'indépendance vis-à-vis des pressions politiques, sociales ou économiques et l'absence de conflits d'intérêts. Dans cette mission, on retiendra particulièrement les travaux en autosaisine par lesquels l'Académie anticipe sur les thèmes dont elle pressent l'importance. Je citerai 3 exemples actuels de ces rapports qui participent de la vocation naturelle de l'Académie. Le rapport sur l'évaluation des chercheurs et des enseignants-chercheurs. lancée par l'Académie avant que le sujet ne connaisse une certaine actualité médiatique, et publiée en juin dernier. Le rapport commun avec l'Académie des technologies sur la préservation à long terme de l'information numérique, qui vient d'être achevé. Le rapport en cours sur la métallurgie et les matériaux cruciaux pour l'agenda énergétique mondial. Mais le dialogue avec le public, à travers les médias, s'accommode mal de ce type de sujet à moyen-long terme. Les attentes déjà évoquées concernent les sujets d'actualité, même si l'intérêt que le public leur porte est éphémère et versatile. Certains de ces sujets font l'objet de controverses parmi les scientifiques eux-mêmes. Rien de nouveau à cela, puisque le règlement de l'Académie royale de 1699 rappelait aux académiciens les règles de courtoisie à observer dans leurs dires et écrits en cas de divergence d'opinion. Controverses inhérentes à la démarche scientifique, mais qui ont souvent l'effet de détourner l'attention de la science elle-même. C'est pour faciliter ce dialogue que l'Académie mettra en place, dès demain matin, sur son site internet, une rubrique intitulée « Libre point de vue d'académiciens », dont les premiers thèmes auront trait à l'environnement et au développement durable. On ne doit pas se méprendre sur cette initiative. La légitime demande du public n'est pas que le monde scientifique, réputé sachant, se décharge de son devoir en se bornant à exposer devant lui des thèses dont il le ferait, lui, le public, juge. On entend simplement exposer, sans dramatisation médiatique, les évidences scientifiques, les conclusions et les éventuels questionnements, les progrès et les validations attendues. Le moment est venu de conclure ces quelques réflexions. J'aimerais revenir sur un discours déjà cité du président des États-Unis qui déclarait vouloir remettre la science à sa place légitime. Le mot anglais est « rightful ». La vraie question, comme l'écrit Daniel Sarewitz, est bien de définir cette « rightful place ». Dans cet esprit, en ce lieu où j'évoquais en juin dernier la mémoire de Jean Dausset, nous ne pouvons oublier qu'il fut le président du MURS, M-U-R-S, Mouvement universel de la responsabilité scientifique, de 1984 à 2002. Je vous remercie de votre attention. La parole est maintenant à M. Jean-Charles Schwartz, membre de l'Académie dans la section de biologie humaine et sciences médicales, pour son discours intitulé « Les médicaments du cerveau, enjeux scientifiques, médicaux et industriels ».
Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le Président, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de commencer cet exposé par une anecdote personnelle. Nous sommes au début des années 70. Je suis, assez ému, il faut le dire, dans le bureau du professeur Jean Bernard, un hématologue prestigieux, occupant alors les fonctions de président de l'INSERM. Je suis un jeune chercheur en neurochimie, une discipline naissante, encore peu représentée en France par quelques jeunes comme Jean-Pierre Changeux ou Jacques Lovinsky. Je n'ai encore que quelques publications à mon actif. J'ai été convoqué par Jean Bernard, qui désire m'interroger à la suite de la candidature de mon équipe à un nouveau laboratoire de l'INSERM. Ce laboratoire est dédié aux maladies du cerveau. Il vient d'être édifié sur les terrains de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, et à cette occasion, on a fait tomber une partie de la haute muraille carcérale qui entoure cet hôpital, un symbole en quelque sorte, puisque c'est celui de la recherche qui entre dans cet hôpital destiné à aider ce que l'on appelait les aliénés au siècle précédent, à se libérer de leur dernière chaîne. Au bout de quelques instants d'entretien, à ma surprise, mais à ma grande satisfaction, Jean-Bernard me déclare tout de go. « Mon jeune ami, nous avons besoin de vous. C'est de votre discipline que viendront les progrès en psychiatrie et en neurologie, deux branches de la médecine qui commencent enfin à évoluer vers une pratique scientifique dont les autres branches ont montré depuis longtemps tout l'intérêt. » Pourquoi cet optimisme de Jean-Bernard ? Pourquoi à ce moment ? Alors que jusqu'alors, on était à peu près complètement désarmés pour traiter les grandes affections psychiatriques et neurologiques. Autour des années 60, on a assisté à une série de révolutions thérapeutiques. Le plus souvent de manière fortuite, des neuropsychiatres avisés découvrent, en les essayant chez quelques patients, les propriétés remarquables mais inattendues de médicaments majeurs. Leur mécanisme d'action n'est pas connu encore à ce moment, et il faudra même des années de recherche neurochimique, neuropharmacologique, pour découvrir ces mécanismes. C'est par exemple Jean Delay et Pierre de Nicker qui décident, sur la suggestion d'un chirurgien militaire, Henri Laborite, d'administrer la chlorpromazine, un médicament synthétisé comme antihistaminique à des schizophrènes délirants de l'hôpital Sainte-Anne. Ils constatent alors que leurs hallucinations cessent et que disparaît l'agitation qui régnait dans les salles où ces malades étaient enfermés. Le premier neuroleptique, on parle maintenant plutôt d'antipsychotique, le premier neuroleptique était né. À partir de cette date, les salles de malades mentaux qui se multipliaient auparavant commencent à se vider, et ceci dans le monde entier. Toutefois, il faudra encore attendre une dizaine d'années pour que cet effet remarquable de la chlorpromazine soit compris. C'est Arvid Carlsson, un chercheur de l'université de Göteborg en Suède, qui l'attribue au blocage des actions de la dopamine, un neuromédiateur cérébral que lui-même avait découvert peu de temps auparavant, et ses exploits lui vaudront le prix Nobel. Peu après le succès de la chlorpromazine, Roland Kühn, un psychiatre suisse, jusque-là un adepte de la psychanalyse, il faut le dire, essaye sur ses malades l'imipramine à la demande des laboratoires pharmaceutiques GJ. C'est un autre antihistaminique, chimiquement très proche de la chlorpromazine, puisqu'il n'en diffère que par un seul atome. Un bel exemple de ce que l'on appelle couramment la recherche MeToo, c'est-à-dire « moi aussi », une pratique très répandue dans l'industrie pharmaceutique. Mais il rencontre une déception, le médicament n'améliore pas les schizophrènes. Néanmoins, Kühn a la curiosité d'essayer le produit sur des malades souffrant de dépression grave, et il constate un effet remarquable sur la plupart d'entre eux. Là encore, une dizaine d'années seront nécessaires pour que le mécanisme primaire d'action des antidépresseurs, il s'agit du blocage de la recapture des monoamines, la noradrénaline, la sérotonine, c'est-à-dire d'un processus d'inactivation de neuromédiateurs cérébraux, que ce mécanisme soit reconnu. Et ceci, c'est Julius Axelrod qui réalise cela aux États-Unis, ce qui lui vaut, là encore, un prix Nobel. De la même manière, on pourrait rappeler la découverte à la même époque, et là encore par sérendipité, pour parler en bon franglais, du librium, le premier des anxiolytiques, par Léo Sternbach, un chimiste jusqu'alors spécialisé dans la synthèse des colorants et qui avait synthétisé ce produit en tentant de faire des colorants. Là encore, Il faudra attendre plus de 20 ans, cette fois, pour que Herminio Costa élucide le mécanisme d'action des benzodiazépines dont fait partie le Librium, c'est-à-dire la potentialisation de l'action du principal neuromédiateur inhibiteur cérébral, le gamma-aminobutyrate. Mais un autre exemple, et cette fois-ci un véritable cas d'école de recherche translationnelle, comme on ne disait pas encore à l'époque, a probablement encore plus impressionné Jean Bernard. Celui-ci, dans un discours prononcé en 1974 à l'occasion du 10e anniversaire de l'INSERM, assignait à la neurochimie la première place parmi les nouvelles disciplines à développer par cet organisme de recherche. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la série de découvertes qui ont conduit à l'utilisation de la DOPA dans le traitement de la maladie de Parkinson. Au tout début des années 60, immédiatement après la découverte de la dopamine dans le cerveau par Arvid Carlsson en 1958, comme je l'avais déjà rappelé, un couple de jeunes médecins suédois, deux grands blonds aux yeux bleus, tous deux très beaux, Annika Dahlström et Kjell Fuchs, visualise cette amine par une méthode originale dans un groupe de neurones de la substance noire projetant sur le striatum, c'est-à-dire dans deux structures cérébrales que l'on savait, impliquées dans la maladie de Parkinson. En parallèle et au même moment, Ole Ornikevich, un neuropathologiste viennois, dissèque des cerveaux de parkinsoniens post-mortem et il découvre que la dopamine est quasiment absente du striatum, la structure qui en est normalement la plus riche. Il devenait clair que l'on devait tenter de rétablir chez ces malades les réserves de dopamine qui étaient compromises. Dès 1961, Ole Ornikevich réussit à convaincre un de ses collègues, le neurologue Birkmeier, d'administrer à deux de ses malades l'acide aminé précurseur de la dopamine, c'est-à-dire la DOPA ou dioxyphénylamine. Le résultat est si spectaculaire qu'il est publié la même année et que ce traitement miracle est immédiatement appliqué dans le monde entier. Cette impressionnante série de découvertes réalisées en moins de deux décennies a eu, nous semble-t-il, des conséquences majeures dans plusieurs domaines. Tout d'abord, la neurochimie associée à l'utilisation de ce que l'on appelle avec Claude Bernard les bistouris chimiques, c'est-à-dire les médicaments, ainsi qu'à la morphologie, au comportement, est apparue, cette discipline est apparue comme pouvant contribuer de manière décisive à nous aider à comprendre le cerveau et ses maladies. On peut ainsi dater de cette période le début de l'essor continu de la neurobiologie et la fascination que cette nouvelle discipline exerce sur un nombre croissant de chercheurs. Pour l'illustrer, plus de 30 000 participants au dernier congrès de la Société américaine des neurosciences. Fait au moins aussi important, le traitement d'affections mentales et neurologiques affectant des millions de personnes s'est trouvé amélioré de manière déterminante avec des conséquences sociales sur leur réinsertion. Enfin, l'industrie pharmaceutique s'est focalisée sur la recherche et le développement de nouveaux médicaments du cerveau, plus qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, et l'industrie française a eu sa part dans cet essor. Cependant, aujourd'hui, trois ou quatre décennies plus tard, on peut raisonnablement se poser la question de savoir si ont été tenus les progrès thérapeutiques rapides que recélaient ces découvertes remarquables du milieu du siècle précédent. À cet égard, il nous faut bien reconnaître que le bilan est pour le moins contrasté. On a certes assisté à des progrès remarquables dans la connaissance du cerveau et notamment dans l'analyse des processus chimiques élémentaires de communication entre neurones. Les synapses, c'est-à-dire des structures où se réalise préférentiellement cette communication, ont été disséquées avec un luxe de détails. De nouveaux médiateurs ont été identifiés, des enzymes, des canaux, des récepteurs, des transporteurs et d'autres protéines synaptiques, ceci par milliers, et leur expression, leur fonction et leur régulation ont pu être précisées et ou sont en cours d'être précisées. Chacune des pièces de ce puzzle magnifique, dont l'ajustement apparaît plus fin chaque jour, pourrait être à l'origine de déficits psychiques ou neurologiques, et chacune des protéines de ces protéines constitue une cible potentielle pour de nouvelles classes de médicaments. Reconnaissons cependant que pour les avancées pharmacologiques, la recherche translationnelle n'a pas été vraiment au rendez-vous. S'agissant par exemple de la schizophrénie, son origine développementale semble maintenant bien établie et plusieurs gènes de susceptibilité, principalement des facteurs neurotrophiques, ont été identifiés. Néanmoins, le traitement de cette maladie, initialement révolutionné par la chlorpromazine, n'a connu depuis que des progrès mineurs. Il existe bien maintenant une quarantaine d'antipsychotiques différents sur les rayons des officines. Leur tolérance a été améliorée par rapport à celle de la chlorpromazine, mais tous procèdent du même mécanisme principal, c'est-à-dire le blocage des sous-types D2 et D3 des récepteurs de la dopamine. Ils présentent une efficacité voisine sur les symptômes positifs, c'est-à-dire les hallucinations de la chlorpromazine, et comme la chlorpromazine, tous paraissent peu actifs sur les symptômes négatifs, le déficit cognitif qui empêche la resocialisation complète des malades. Les efforts actuels s'orientent notamment vers les associations des antipsychotiques traditionnels avec des agents dits procognitifs, c'est-à-dire qui mettent en jeu de nouveaux mécanismes en augmentant l'éveil, l'attention, la mémorisation, comme par exemple les agonistes inverses du récepteur H3 de l'histamine, pour lequel plusieurs essais cliniques sont en cours, notamment aux États-Unis. S'agissant des dépressions maintenant, des affections dont l'origine paraît attribuable, là encore, à une insuffisance de sécrétion de certains facteurs neurotrophiques, comme le BDNF. Leur traitement a peu évolué depuis la découverte de l'imipramine. Si plusieurs dizaines de composés différents sont maintenant disponibles, leur mécanisme d'action est proche de celui de l'imipramine et aucun n'évite les imperfections de ce médicament, soit essentiellement une action qui met plusieurs semaines à se mettre en place et à laquelle 30 à 40% des malades résistent. Dans le cas de la maladie de Parkinson, à la DOPA sont venus, certes, s'ajouter d'autres agents, mais tous mettent en jeu, comme cette dernière, la compensation du déficit dopaminergique. Ce sont des stimulants directs des récepteurs de la dopamine, des inhibiteurs de la dégradation de cette amine. Aucun d'entre eux, cependant, ne prévient la perte progressive de leur activité ou ne prévient les effets secondaires tels que les dyskinésies, ces mouvements incontrôlés qui se développent au cours des années de traitement. Le pharmacologue doit admettre que la découverte la plus marquante dans ce domaine n'est probablement pas médicamenteuse, c'est la stimulation intracérébrale chronique mise au point par notre confrère Alim Bedabid. Il doit aussi reconnaître que, en dépit d'une connaissance accrue des mécanismes responsables de la mort neuronale, aucun médicament n'est encore disponible pour retarder la dégénérescence progressive des neurones de la substance noire à l'origine de la maladie. Ce bilan est encore plus négatif pour d'autres affections cérébrales majeures qui intéressent pourtant une fraction croissante de la population. C'est le cas des pharmacodépendances dont souffrent des millions de sujets incapables d'interrompre leur consommation régulière d'alcool, de nicotine, de morphine, d'amphétamine, de cannabinoïdes, de benzodiazépines ou d'autres substances dont la liste s'allonge chaque jour. Aucun traitement réellement efficace à ce jour. Et pourtant, on a identifié les régions du cerveau impliquées. Ce sont les circuits, ce qu'on appelle les circuits de récompense qui comprennent le noyau accumbens, ces afférences dopaminergiques ou amygdaliennes, ces projections corticales. Et on a également identifié les mécanismes moléculaires qui sont mis en jeu, c'est-à-dire des modifications rémanentes de l'efficacité synaptique qui s'apparentent, ces mécanismes, s'apparentent à ceux de la mémorisation. De ce fait, les cibles thérapeutiques ne manquent pas. Une des plus prometteuses à cet égard étant le récepteur D3 de la dopamine pour lequel nous avons mis au point plusieurs milliers de ligands et au cours des 20 dernières années et dont l'un d'entre eux est enfin soumis à des essais cliniques. C'est aussi le cas des démences de type d'Alzheimer. Les médicaments dont on dispose actuellement, principalement des inhibiteurs de la dégradation d'un neuromédiateur, l'acétylcholine, ont une efficacité symptomatique modeste et surtout ne paraissent pas retarder la dégénérescence neuronale et donc la progression de la maladie. Pourtant, les principaux coupables de cette dégénérescence, des dérivés des protéines bêta-amyloïdes et tau, paraissent non seulement identifiés, mais mieux encore, sont connus dans les moindres détails à la suite de très nombreuses études. Leur structure moléculaire fine est connue. De même, les voies de biosynthèse et de dégradation, les processus de régulation et d'agrégation, etc. Et pourtant, les essais cliniques, près d'une dizaine, commencés, terminés ou en cours, ces essais cliniques portant sur des molécules inhibitrices du métabolisme de ces protéines, les sécrétases ou des anticorps monoclonaux ayant des effets voisins, n'ont pas été couronnés de succès jusqu'à présent. À ce stade, et sans vouloir couvrir tous les domaines de la neuropharmacologie, ce qui n'est pas, évidemment, ne peut être l'objet du présent exposé, on peut s'étonner de ce que le rythme des progrès se soit visiblement ralenti depuis la période glorieuse des années 60, alors que dans le même temps, on a assisté à un essor remarquable de la neurobiologie. À cet égard, il faut d'abord remarquer que des essais cliniques tels que ceux qui ont été à l'origine des antipsychotiques, de la DOPA ou des antidépresseurs sont inconcevables de nos jours. Ils devraient maintenant être précédés d'autorisations administratives accordées à la suite de multiples opérations de contrôle et de multiples expérimentations de sécurité, toutes effectuées selon un code très strict de bonnes pratiques, de manufacture ou d'essais de laboratoire. Nul doute que ces précautions, largement justifiées, puisque destinées à protéger les malades, entraînent une raréfaction des études originales par les délais et les coûts financiers qu'elles imposent. Par ailleurs, les coûts encore plus impressionnants engendrés par les essais cliniques actuels, obligatoirement pratiqués avec un luxe de précaution et sur de très larges cohortes de patients, font souvent hésiter les larges sociétés pharmaceutiques à les entamer sur des projets très innovants. Rappelons que le développement d'une molécule candidate, depuis sa sélection jusqu'à sa mise sur le marché, la mise sur le marché du médicament terminée, requiert de 10 à 12 ans de travaux et des dépenses dont certains disent qu'elles sont proches du milliard de dollars. Il est parfois moins risqué de consacrer de telles sommes et un tel délai à un me-too, c'est-à-dire un composé dont les prédécesseurs laissent prévoir l'efficacité. Là encore, le principe de précaution auquel on faisait allusion tout à l'heure, inscrit dans notre Constitution et surtout dans beaucoup d'esprits, n'a pas que des applications positives. À ces difficultés qui sont communes à tous les médicaments, s'ajoutent certaines qui sont spécifiques du médicament du cerveau. Ce dernier doit franchir aisément la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau. Cela lui impose certaines caractéristiques physico-chimiques telles que la lipophilie, qui sont aussi des sources d'effets secondaires potentiels, notamment au niveau du cœur, qu'il faut cependant éviter à tout prix. De plus, les défis les plus importants concernent maintenant les maladies neurodégénératives, mettant en jeu l'utilisation potentielle de facteurs neurotrophiques, c'est-à-dire des protéines de taille élevée dont la biodisponibilité par voie orale reste problématique. N'oublions pas que près d'un siècle après la découverte de l'insuline par Banting et Best, on ne dispose toujours pas d'une insuline active par voie orale. Là, les thérapies géniques ou cellulaires pourraient entrer en compétition avec la pharmacologie. Enfin, dernier handicap, la plupart des affections du cerveau sont d'origine multigénique, donc complexes, et les modèles animaux manquent encore pour expérimenter certaines classes nouvelles de médicaments. Le pharmacologue ne dispose pas, par exemple, de souris schizophrènes, ou, j'ai l'habitude de dire, peut-être qu'il ne dispose pas de psychiatres capables de faire le diagnostic de schizophrénie chez la souris. En face de ces handicaps, la neuropharmacologie dispose néanmoins maintenant de nombreux atouts. Le nombre de cibles potentielles pour des médicaments innovants s'accroît avec l'identification de nouveaux gènes de susceptibilité des affections neuropsychiatriques. L'essai primaire des molécules in vitro est facilité par la disponibilité de protéines humaines recombinantes, de tests et d'appareillages permettant des tris en grand nombre et à haut débit. L'identification des têtes de série chimiques inattendues est rendue possible par le tri de larges chimiothèques qui sont maintenant disponibles dans tous les laboratoires de pharmacochimie au fur et à mesure que des médicaments sont synthétisés. L'amélioration de ces têtes de série est jusqu'à un certain degré facilitée par la modélisation moléculaire de la cible protéique qui dérive souvent de la connaissance de sa structure cristalline ou de celle de protéines apparentées. Dans un nombre croissant de cas, on dispose de modèles animaux fidèles des affections cérébrales, notamment d'animaux transgéniques, lorsque des gènes de susceptibilité ont été identifiés, comme c'est le cas pour la démence d'Alzheimer. En conclusion, mesdames, messieurs, on voit que ces atouts sont nombreux. Ils laissent raisonnablement espérer que des progrès de taille dans les prochaines années et vont survenir, ce qui me permet de terminer cet exposé sur une note très positive.
C'était Jean-Charles Schwartz, membre de l'Académie des sciences. Il clôturait la deuxième partie de la séance solennelle de l'Académie des sciences 2009 en évoquant les enjeux scientifiques, médicaux et industriels des médicaments du cerveau. Vous avez également pu entendre en première partie Jean Salençon, président de l'Académie des sciences, dans le rôle de l'Académie des sciences en tant que conseil pour la société. Cette cérémonie est l'occasion de décerner une centaine de prix scientifiques. Nous vous invitons à consulter la liste des lauréats 2009 sur le site de l'Académie des sciences. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.